France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons donc ce matin dans le grand entretien du 7-9 le ministre de l'Éducation nationale. Question-réaction au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour. Bonjour.
Et merci d'être à notre micro ce matin. On va évoquer évidemment dans un instant le bac qui a commencé pour des centaines de milliers d'élèves cette semaine et ce matin pour la philo. Mais d'abord un mot sur le masque. Le premier ministre Jean Castex a donc annoncé hier que l'obligation du port du masque était levée en extérieur. Qu'est-ce que ça va changer au protocole sanitaire à l'école jusqu'au 6 juillet, date de la fin de l'année? Pas de masque aujourd'hui dans les cours de récréation, c'est fini.
Oui, mais c'est la conséquence logique de la décision générale qui a été prise de ne plus porter les masques en extérieur. Et comme chacun sait, c'est lié à l'amélioration générale de la situation sanitaire. Et donc c'est une bonne chose, puisqu'on a toujours considéré que c'était les enfants et les adolescents qui étaient prioritaires dans toutes les mesures que l'on prenait. Et donc c'est normal qu'ils soient concernés par cette mesure. Je sais très bien que beaucoup d'enfants et d'adolescents trouvaient pénible d'avoir à porter le masque pendant la cour de récréation, le temps de récréation, pardon. Et donc c'est évidemment une très bonne chose.
Donc la doctrine, c'est masque dans la classe, masque à la cantine, pas de masque à la récré.
C'est ça, en plein air en fait. Et en réalité, c'est cohérent avec quelque chose que nous avons toujours dit, enfin qui est dit par les autorités sanitaires, c'est-à-dire le fait que les choses ne sont pas pareilles en plein air et à couvert, et donc c'est normal de commencer par le plein air pour ce retrait progressif des masques, je l'espère, au rythme le plus rapide dans la vie quotidienne de tous et a fortiori de nos enfants.
Et dans la perspective de la rentrée scolaire, afin de limiter le risque d'une reprise épidémique, allez-vous lancer une campagne d'incitation à la vaccination pour la vaccination des collégiens, des lycéens, une campagne pour convaincre les parents éventuellement réticents de faire vacciner leurs enfants? Vous allez travailler là-dessus?
Oui, bien sûr. Et cette campagne d'ailleurs vient de commencer. Hein, et en vous en parlant, ça en fait partie, bien sûr. C'est-à-dire qu'il est éminemment souhaitable que les plus de 12 ans se fassent vacciner. Et donc nous incitons à cela au travers de messages aux élèves, aux familles. Et je sais qu'il y a quand même déjà un certain engouement pour cela, même s'il faut que ce soit plus fort encore, de façon à ce que un maximum d'adolescents, de collégiens, de lycéens soient
vaccinés pour la rentrée. Et ce sera toujours conviction et pas obligation.
Oui, en tout cas, à ce stade, c'est cette doctrine-là qui prévaut.
Jean-Michel Blanquer, que pouvez-vous nous dire ce matin du protocole sanitaire de la rentrée prochaine? Est-il bouclé? Sur quelles hypothèses il se fonde?
Alors, le protocole sanitaire sera élaboré au cours des premiers jours de juillet, quand on aura un petit peu tout le retour d'expérience de l'année actuelle. Le travail conjoint avec les autorités de santé, hein, nous sommes notamment très liés à la Haute Autorité de Santé publique pour l'élaboration d'un tel protocole. Il y aura des éléments qui peut-être différeront un peu de l'année dernière, mais ce sera toujours la même logique, c'est-à-dire la définition de règles dont le curseur peut évoluer en cours d'année en fonction de l'amélioration ou de l'aggravation de la situation. Alors, évidemment, on souhaite tous qu'on n'ait même pas à s'en servir, à la limite, ou que le curseur soit le plus bas possible, mais c'est la logique, et donc on rendra public dans la première quinzaine de juillet cette nouvelle donne, avec beaucoup d'éléments qui ressembleront évidemment, par exemple sur les gestes barrières ou d'autres choses comme ça.
Sur le masque, ça dépendra de l'état de l'épidémie. On peut imaginer une rentrée non masquée dans les classes aussi.
On peut l'imaginer, je l'espère de tout cœur, ça, comme tout le monde, je pense, bien sûr, c'est imaginable, ça ne veut pas dire que c'est certain. Et de toutes les façons, même en juillet, ce ne sera pas défini. En juillet, on dira les scénarios possibles, et puis c'est à la fin du mois d'août qu'on décidera de ça.
Le bac, les épreuves du bac professionnel ont démarré hier. Ce matin, c'est donc au tour des élèves de terminale générale et technologique de plancher sur l'épreuve de philo. Après 2020 et un bac en contrôle continu pour cause de Covid, la session 2021 sera encore bien particulière, l'année scolaire ayant été rythmée là encore par l'épidémie et les lycéens ayant suivi les cours en demi-jauge depuis le mois de novembre dernier. Dans quelle atmosphère, Jean-Michel Blanquer, va se dérouler cette semaine d'examen? Redoutez-vous? Avez-vous même hésité à la maintenir?
Non, j'ai pas hésité. Au contraire, j'ai tenu à la maintenir. Et vous le savez, le débat, il y a encore un mois et demi, était tout contrôle continu ou pas. Il y avait d'ailleurs beaucoup de pression de la part de beaucoup de secteurs pour que nous mettions à 100% contrôle continu. Il faut avoir ça en tête quand on entend certains débats aujourd'hui. Et j'ai tenu à tout prix à maintenir l'épreuve, d'abord les épreuves du baccalauréat professionnel, mais merci de les avoir mentionnées tout à l'heure.
Oui, on va en parler d'ailleurs, le bac pro, parce qu'ils
l'épreuve de philosophie et puis le grand oral. Ça me semblait indispensable, d'abord pour que chacun travaille jusqu'au bout, ensuite pour que ce rituel si important du baccalauréat soit maintenu autant que possible. Ceci ne doit pas nous faire oublier, premièrement, que nous sommes le pays qui a eu les établissements ouverts pendant pratiquement toute l'année scolaire. C'est une exception française considérable. Mais aujourd'hui, vous savez, boucher avalé n'a plus de goût.
C'est ce que j'allais vous dire. On avait parié que vous diriez cette phrase.
Mais c'est exceptionnel.
Vous la répétez
à chaque fois. Quand je vois le débat public.
Non, c'est très bien, vous avez raison.
Je crois qu'il faut quand même qu'on mesure cette performance collective du pays. C'est un enjeu majeur et on en parlera encore pendant des années quand on reprendra du recul sur ça. Et donc, on a préservé ça pour les lycéens. C'est le point fondamental. Quand on est en demi-jauge, ça ne veut pas dire qu'on travaille à moitié, ça veut dire qu'il y avait de l'enseignement à distance. Je sais que ça n'a pas toujours été parfait, mais ça a parfois augmenté l'autonomie des élèves. Et aujourd'hui, surtout, c'est la première fois qu'ils passent sur leurs enseignements de spécialité, c'est la première année que ça se passe. Et le grand oral est très significatif d'un exercice intelligent et intéressant pour les élèves.
Alors, on a plusieurs questions, vous avez soulevé plusieurs sujets. D'abord, le contrôle continu, qui va donc représenter cette année 82% de la nationale du bac. Pour l'épreuve de philo aujourd'hui, les élèves pourront garder leur note de contrôle continu si elle est supérieure à celle de l'épreuve écrite d'aujourd'hui. Les profs de philo disent que cette double notation dévalorise leur discipline et qu'ils s'attendent à corriger des copies vides ou presque. Que leur répondez-vous ?
Nous verrons ce soir, je ne pense pas que ce sera le cas. Je pense que l'immense majorité des élèves ont envie de prendre au sérieux cette épreuve, ont envie éventuellement d'améliorer leurs notes de contrôle continu. Vous avez des élèves qui n'ont pas des bonnes notes de contrôle continu. Et même ceux qui ont des bonnes notes peuvent toujours chercher à l'améliorer. Donc, vous savez, je vous le redis, mais il y a 6 semaines, j'étais très seul quand je disais « il faut la maintenir ». La pression que j'avais, c'était uniquement 100% contrôle continu, sans même faire passer l'épreuve. Donc je considère qu'avoir maintenu l'épreuve est surtout le signe de cette importance que j'accorde à cette épreuve de philosophie. Vous savez que c'est une discipline à laquelle j'accorde énormément d'importance. Elle est l'épreuve reine à l'écrit dans la nouvelle version du baccalauréat, parce que c'est la seule vraiment commune à tous. Il était important de la maintenir et c'est ce qu'il faut se dire aujourd'hui. Je ne crois pas que tous ceux qui aiment la philosophie sont nombreux, les professeurs de philosophie et les autres, aient un quelconque intérêt à dénigrer ce qui se passe, alors qu'au contraire, c'est un moment de rassemblement. D'ici une heure ou deux, je pense que vous donnerez les sujets publiquement. C'est un moment un peu de communion du pays autour de la philosophie. Avoir maintenu l'épreuve permet aussi cela.
A contrario, deux questions qui vont dans le même sens sur l'appli Inter. Déborah, pourquoi la meilleure note sera gardée pour le bac philo et pas pour le bac français dont l'écrit a lieu cet après-midi ? Evelyne, les premières passent aussi une épreuve écrite aujourd'hui, l'écrit de bac français, et pour eux, cela compte intégralement sans prise en compte du contrôle continu. Pourquoi vous avez fait une règle pour le bac philo et pas pour les premières, l'épreuve écrite de français ?
Oui, ce qui est quand même intéressant, c'est que quoi que vous fassiez, de toute façon, vous avez la règlement. Pourquoi vous n'avez pas fait l'inverse ?
Il est 8h30.
Ce qui prouve quand même que mon métier n'est pas évident, parce que, si vous voulez, reportez-vous au débat d'il y a 2 mois, encore une fois, sur l'ensemble de ces sujets. Sur le français, j'ai fait justement ce que vous me demandiez tout à l'heure, c'est-à-dire maintenir au maximum l'épreuve telle qu'elle était possible. Et donc, c'est en pensant aux élèves à chaque fois que je fais ces choses-là. Donc, si j'avais fait ce que vous dites, on aurait, de la part peut-être de certains, le même genre d'argument que ce que vous m'avez dit pour l'épreuve de philosophie. Donc, il était important de l'aménager quand même, et nous l'avons aménagé, parce que je rappelle qu'en voie générale, les élèves ont 14 textes, mais ensuite le professeur en choisit 2, et l'élève en choisit 1 parmi les 2. C'est cet aménagement-là qui permet quand même de tenir compte qu'un élève a pu parfois avoir des points de faiblesse du fait de la façon dont l'année s'est passée.
Jean-Michel Blanquer, du côté des bacs pro maintenant, certains se disent pénalisés, éprouvent un sentiment d'injustice parce qu'ils ont 3 jours d'épreuves écrites et seront évalués sur 5 matières, alors que les filières générales et technologiques n'ont qu'une seule épreuve écrite sur une seule matinée. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures ? N'est-ce pas un mauvais signal envoyé à cette filière ?
C'est tout le contraire. C'est pas 2 poids 2 mesures, c'est du sur-mesure. Et d'ailleurs, on vient de prendre 3 exemples. La philo en voie générale, le français en première et le bac pro. Et effectivement, dans les 3 cas, c'est pas exactement la même chose. C'est le même esprit. On recherche l'intérêt des élèves, mais c'est une adaptation aux particularités de chacune des situations. Et là, en l'occurrence, c'est une logique qu'on peut comparer à celle qu'on a prise pour la philo. C'est-à-dire, comme ils passent plusieurs épreuves, mais qu'ils choisissent les 2 meilleures notes, en fait, ça permet premièrement d'avoir le rituel de passage, le travail jusqu'au bout, et puis quand même d'être dans une situation de bienveillance puisqu'on prend les 2 meilleures notes sur celles qui seront passées. Donc c'est un régime qui, au contraire, est favorable. Et personne ne peut dire que je n'apporte pas d'attention au baccalauréat professionnel. J'y suis au contraire extrêmement attentif. Il y a aussi une réforme très importante dans dans ce domaine. Et je suis le premier à en parler beaucoup, donc je suis heureux aussi que vous me donniez cette occasion de dire que le bac pro, c'est important.
Autre objet de mécontentement qu'on vous relaye, puisque c'est notre job, le grand oral, cette épreuve que vous avez créée lors de votre réforme du bac. Avec cette année en gruyère, beaucoup de professeurs pointent un manque de préparation des élèves à cause du Covid, des jurys composés trop tardivement, des critères d'évaluation et une notation trop floue. Et puis toujours la grande question qui touche ce grand oral, qui est de dire, est-ce que le grand oral ne favorise pas plus les enfants favorisés qui ont une facilité à parler, et est-ce que ce n'est pas discriminant socialement ?
Alors, le grand oral, il faut, comme sur chaque sujet, restituer le sens d'abord. Pourquoi est-ce qu'on a fait cela ? D'abord, on l'a fait, non pas parce que j'ai inventé ça un bon matin, mais parce qu'on a consulté énormément pour voir comment moderniser. Et nous savions d'emblée qu'il y avait nécessité de revaloriser l'oral, et en même temps qu'on revalorisait l'écrit. D'ailleurs, les deux vont ensemble. L'expression écrite, l'expression orale, c'est fondamental. On sait que c'est plutôt un point faible du système français jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde le disait. Là, maintenant, ça devient concret. Quand ça devient concret, c'est là que pleuvent parfois certaines critiques. Pourtant, c'est extrêmement important ce qui se passe. S'entraîner à bien parler. Alors, c'est vrai que bien parler, ça peut parfois être un élément de discrimination sociale. Relatif, pas absolu. Hein. Vous pouvez être d'une classe supérieure favorisée
et être timide,
et inversement. Vous voyez fleurir maintenant des concours d'éloquence où je vois des jeunes se distinguer qui viennent de tous les milieux. Donc, il ne faut pas non plus ancrer trop cette idée. Mais néanmoins, il y a une part de vérité dans cette assertion. Et justement, si on ne fait rien, eh bien, on maintiendra les inégalités sociales ou socioculturelles. Le but, c'est que tout le système scolaire français, grâce à ce signal que nous avons envoyé maintenant depuis 3 ans dans le système, eh bien, se mobilise pour cela. D'où les pratiques théâtrales, les pratiques de chant, les pratiques de tout ce qui permet d'avoir plus confiance en soi, etc., etc. Donc, c'est au contraire un moment très important. La préparation, elle a pu avoir lieu. Vous savez, j'entends cet argument depuis plusieurs semaines. Or, n'oublions pas que le grand oral porte sur les point fort de l'élève, c'est-à-dire les deux enseignements de spécialité que l'élève a choisi en première puis en terminale. Et donc ces deux enseignements de spécialité correspondent à ses passions et correspondent aussi à un grand nombre d'heures de cours, y compris ces dernières semaines, ça veut dire 2 fois 6 heures par semaine en enseignement de spécialité qui ont été l'occasion de s'entraîner. Moi j'ai vu beaucoup d'entraînements ou entendu parler de beaucoup d'entre eux. J'invite chacun à regarder les questions que les élèves ont préparées, c'est absolument passionnant, aux antipodes de ce qu'on appelait le bachotage auparavant, parce qu'on est là au contraire sur des choses approfondies que l'élève apprécie, aime, et qu'il prépare mieux à son avenir. Mmh. Donc le grand oral, c'est vraiment quelque chose qui fait le pont entre la vie du lycéen et ce que sera sa vie ultérieurement.
On a pu suivre les révisions du grand oral dans les journaux de France Inter sur plusieurs semaines avec une bande de copains qui travaillaient.
C'est passionnant, je trouve.
L'année dernière, Jean-Michel Blanquer, le taux de réussite au bac a atteint le niveau record de 95% d'admis. Beaucoup ont dit que les notes avaient été gonflées à cause du Covid. Beaucoup ont dénoncé un bac au rabais. Redoutez-vous la même critique cette année ?
Des critiques, il y en aura toujours, beaucoup de ceux qui font des critiques le font comme si on n'était pas en train de traverser une crise sanitaire gravissime. Sur ce sujet comme sur d'autres, je reconnais évidemment des imperfections, des choses qui ne sont pas idéales. Comment serait-il autrement ? Je connais aucun pays en ce moment où la situation est idéale sous cet angle. Néanmoins, encore une fois, on a préservé une année scolaire la plus normale possible, et deuxièmement, que les examens se tiennent quand même avec des aménagements que l'on me réclamait énormément.
Ce ne sera pas un bac au rabais ?
Non, d'abord parce que le contrôle continu ne signifie pas rabais nécessairement. Je pense qu'il faut un peu de contrôle continu pour valoriser le travail continu, justement, le travail permanent. Et puis, il faut du contrôle terminal pour qu'il y ait un moment de dépassement de soi, puis une balise de référence. Donc, c'est l'esprit de la réforme du baccalauréat. Donc, normalement, le pourcentage, c'est 40% de contrôle continu, 60% de contrôle terminal. Mmh. Il y a 2 ou 3 ans, j'avais des manifestations contre le contrôle continu. Il y a 2 mois, j'ai eu des manifestations pour 100% de contrôle continu. J'ai tenu à maintenir du contrôle terminal. C'est l'équilibre de cette année. Il est tout de même intéressant. Mmh. Et je crois que les élèves, notamment avec ce grand oral, voient bien qu'ils sont en train de passer à quelque chose d'innovant. Vous savez, on est un pays où on dit toujours « vive le changement, vive la réforme ». Cette réforme-là, elle était beaucoup de gens pensaient à des choses de ce genre depuis longtemps sans que ça puisse jamais se faire. Eh bien, on est l'année où ça se fait enfin, alors même qu'on a une conjoncture très compliquée. Eh bien, c'est dans ces moments-là qu'on voit qui a le sens de l'innovation et du progrès, et puis qui est toujours dans la complainte sur le « c'était mieux avant ».
Au standard d'Inter, Gérard, bonjour, bienvenue Gérard.
Bonjour, monsieur le ministre, bonjour, messieurs, dames.
Bonjour.
Je voulais simplement demander à Monsieur le ministre, qui a l'air très satisfait d'avoir maintenu le plus longtemps possible les écoles ouvertes, les écoles et les collèges et lycées ouverts, ce que je suis loin de reprocher, j'approuve même de pouvoir l'avoir fait. Mais par contre, je peux vous dire que l'enseignement à distance, tel qu'il a été fait, et je pense que c'est très difficile à mettre en place, j'ai été moi-même enseignant avant d'être aujourd'hui en retraite, je peux vous dire que ça a fait d'énormes dégâts sur les élèves les plus fragiles. Mmh. Et j'aimerais bien que qu'on puisse mesurer les effets que ça va avoir, qui vont à mon avis être catastrophiques. Comment comptez-vous y remédier ?
Merci Gérard. Jean-Michel Blanquer vous répond.
Oui, merci monsieur. Je prends très au sérieux ce que vous venez de dire, parce que c'est évidemment en bonne partie exact. C'est en réalité très hétérogène, c'est-à-dire vous avez de l'enseignement à distance qui se passe bien, des élèves qui même bénéficient de quelque chose d'un peu particulier et de complémentaire au travers de cela. Puis il y avait de l'enseignement à distance qui s'est pas bien passé ou dont certains élèves ne profitent pas vraiment. Donc la seule et ce problème que vous mentionnez, je tiens à dire que c'est à un niveau mondial qu'il se pose et que donc c'est potentiellement une très grande difficulté générationnelle qui a été créée et il faut y porter remède à l'échelle européenne et mondiale et j'essaye de pousser dans ce sens aussi. S'agissant de la France, l'objectif à la rentrée, c'est d'être capable évidemment d'avoir une vision personnalisée de chaque élève pour voir ceux qui ont accumulé du retard ou ceux qui, donc ayant accumulé du retard auront besoin d'une aide personnalisée.
Il y aura des professeurs en renfort à la rentrée pour combler le retard accumulé éventuel des élèves à cause de cette nouvelle année.
Il y aura des mesures permettant d'avoir de l'accompagnement personnalisé. C'est notamment dans ce qui concerne le collège, l'opération Devoir fait qui va prendre encore plus d'ampleur et quelque chose de comparable au lycée que nous sommes en train d'ajuster dans le dialogue social d'ailleurs, mais de façon à arriver à aider davantage les élèves qui en ont le plus besoin. Diagnostiquer en début d'année, hein, c'est le sens aussi des évaluations de début d'année dans certaines classes que nous avons développées depuis 4 ans, en CP, en CE1, qui sont des classes fatidiques, mais aussi en 6e ou en 2e, de façon à ensuite bien suivre les élèves, et puis des outils pour les professeurs pour ces évaluations de début d'année, toutes classes confondues.
Mais sur les effectifs, Jean-Michel Blanquer, beaucoup de professeurs nous écrivent pour vous reprocher de supprimer des postes dans le second degré à la rentrée prochaine, alors que collèges et lycées voient leur effectif augmenter. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Alors, on fait encore des ajustements en cette partie de l'année pour tenir compte de problèmes qui peuvent se produire. Notre objectif, c'est quand même de ne pas dégrader le taux d'encadrement. Nous l'avons fait par des heures supplémentaires là où il y a eu éventuellement des suppressions de postes. Ce que j'ai toujours assumé, c'est qu'on crée des postes dans le premier degré, d'abord et avant tout, même s'il y a moins d'élèves.
Et qu'on supprime dans le second.
Parce que ce que nous voulons, c'est renforcer les savoirs fondamentaux à l'école primaire et qu'ensuite les élèves dans le second degré soient justement plus stabilisés. Nous préparons déjà la rentrée 2022 aussi sur une base qui sera favorable au second degré. Donc c'est exact de dire que, en termes de taux d'encadrement, nous avons dans le second degré assumé pendant 4 ans que ça se dégrade légèrement, soit ça se stabilise. Dans certains endroits, ça s'améliore d'ailleurs. Mais en tout cas, l'effort apporté sur le premier degré, c'est vrai. Mais pour des effets qu'on va commencer à voir, parce que les premières générations qui ont bénéficié, par exemple, des CPA 12 ou des CE1 à 12 rentrent en CM2 cette année. Et on commence à voir, justement, au travers d'évaluations, les premiers bénéfices de ces réformes.
Au standard, c'est Yves qui nous attend. Bienvenue Yves, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
J'avais une question concernant, il me semble avoir entendu ce matin sur les antennes de Radio France, que la lecture allait devenir grande cause nationale. Alors je ne sais pas si c'est encore confirmé, mais je me pose tout simplement une question sur le fait que, par rapport aux années 70, nos élèves, les élèves français, ont moins d'heures de français, justement, à peu près 630 heures de français en moins par rapport à un élève des années 70. Et j'ai peur que nous n'arrivions pas à remonter dans les classements internationaux et dans les études nationales et internationales si on enlève au fil des décennies un petit peu d'heures de français. C'est un petit peu comme les médecins Molière, vous savez, le malade se porte mal, on va lui faire une saignée, ah, il se porte encore plus mal, continuons la saignée. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec les heures de français au fil des décennies.
Merci Yves, confirmation déjà de la lecture grande cause nationale dès cet été jusqu'à l'été prochain, Jean-Michel Blanquer.
Oui, le président de la République s'exprime aujourd'hui sur ce sujet, vous savez, il sera à Villers-Cotterêts, d'ailleurs c'est dans le contexte où l'on fête les 400 ans de La Fontaine, et il va dire que la lecture est grande cause nationale. Alors, la lecture grande cause nationale, ça signifie un pays qui lit davantage, des enfants qui sont mieux formés à la lecture et consolidés tous dans leur pratique de lecture et dans leur plaisir de lecture. C'est évidemment tout le sens de la politique menée depuis 4 ans avec le fameux lire, écrire, compter, respecter autrui qui est au cœur des priorités de ce ministère, avec en ciblant tout particulièrement les milieux défavorisés. Et de nouveau, je veux redire que la mesure grande section A12, CPA12, CE1 A12 sont en train de porter leurs premiers fruits. Donc on va en voir le bénéfice. Or, c'est la clé de tout. Par rapport à ce que dit l'auditeur, je pense que c'est très important d'entendre cela parce qu'il y a évidemment quelque chose à faire. Aujourd'hui, un collégien, il a une trentaine d'heures par semaine. Et c'est vrai qu'au fil des années, mais là on parle de plusieurs décennies, les heures de français se sont un peu réduites parce que d'autres choses se sont accentuées. Donc moi, c'est quelque chose que je regarde de très près. Je suis assez ouvert à ce que on fasse une reconquête du français. D'ailleurs, dès la rentrée prochaine, il y a des premières expérimentations, par exemple pour des heures de français latin dès la sixième en collège. Mais je pense que l'avenir est à une reconquête effectivement des heures de français au collège.
Jean-Michel Blanquer, la laïcité, on tenait à en parler ce matin. Jean-Pierre Aubin, après 3 mois de travail et de consultation avec des enseignants de tous niveaux, des chefs d'établissement, des directeurs d'école, souligne dans son rapport d'étape qu'il vous a rendu sur la laïcité à l'école, je cite, la blessure encore ouverte que constitue toujours pour les enseignants l'assassinat de leur collègue Samuel Paty et leur peur aujourd'hui face à certains de leurs élèves ou de leurs parents. Il note aussi la souffrance intime qui naît de leur honte d'avoir peur et d'avoir parfois renoncé à réagir à certains propos ou à enseigner une partie de leur programme. Ces mots sont très forts. La souffrance semble forte. Comment avez-vous reçu ce rapport et votre décision d'organiser un plan de formation de laïcité sur 4 ans pour tous les enseignants, ça va être quoi? Ça va être combien d'heures? Ça va être quoi précisément?
Alors d'abord, j'entends cela et j'entends malheureusement très bien les phrases que vous venez de prononcer. Je suis tellement conscient qu'elles correspondent à une réalité, heureusement pas la réalité de tous les jours, mais une réalité qui existe, que je vais suivre totalement ce rapport Aubin. Et bien sûr, nous ne sommes pas restés inactifs sur ce sujet, vous le savez bien, depuis 4 ans, beaucoup a été fait, le Conseil des sages de la laïcité, qui permet d'avoir désormais un corpus clair de référence sur le sujet, des formations qui ont commencé.
Mais là, concrètement, qu'est-ce que ça va être pour les enseignants?
S'agissant du rapport Aubin, c'est en quelque sorte une nouvelle étape qui permet d'amplifier la laïcité, puisque on a entendu beaucoup ces derniers mois, et notamment au moment de l'assassinat de Samuel Paty, que des enseignants disaient qu'ils estimaient quand même que la formation n'était encore pas au point. Et c'est pour ça que j'ai demandé ce rapport à Jean-Pierre Aubin. Et donc, je vais suivre à 100% ce qu'il propose, qui signifie une formation systématique initiale de tous les enseignants, ce que nous avions déjà commencé à prévoir, mais elle sera encore plus ample que prévu. Et puis, la formation continue de tous aussi, c'est-à-dire presque une sorte de plan de rattrapage en matière de laïcité, aussi bien dans le premier degré que dans le second degré. Cela signifie que vous aurez 1000 formateurs en France, 1000 formateurs de professeurs en France, donc répartis dans tous les départements de France, qui au cours des prochains mois et des prochaines années vont veiller à ce que ces plans de formation sur la laïcité soient pleinement établis. Cela est complémentaire d'autres mesures que nous prenons en la matière, notamment ces équipes Valeurs de la République qui interviennent sur le terrain chaque fois qu'un professeur, un chef d'établissement fait la demande pour son établissement.
Alors Jean-Michel Blanquer, il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions et de questions sur le masque, les parents d'élèves, les directeurs d'école disent ne rien comprendre ce matin. Sylvie, en tant qu'enseignant, nous apprenons les directives par les médias. En tant que parent d'élève, le non-port du masque n'a pas été communiqué. Une autre, Sylvie, enseignante en collège. Est-ce que les élèves de collège et lycée vont pouvoir enlever le masque aujourd'hui? Mon directeur me dit qu'ils n'ont pas reçu de circulaire. Que fait-on? Alors, refixer la ligne, une bonne fois pour toutes. Comme ça, la règle au moins sera connue.
Et la circulaire a été envoyée ou pas? Parce que c'est pas les médias qui doivent annoncer ça.
Ce qui était annoncé hier par le Premier ministre, c'est une mesure d'ordre général qui concerne, chacun l'a compris, le port du masque à l'extérieur, c'est-à-dire le non-port du masque à l'extérieur. Donc on fait une application logique à la cour de récréation, comme je vous le disais en commençant. Bien sûr, nous l'officialiserons dans les textes. Vous savez, il y a souvent eu ce reproche pendant la crise sanitaire de dire on apprend les choses par les médias. Mais c'est parce que parfois vous avez des décisions générales d'application en milieu scolaire. Là, c'est par exemple le cas. Ou aussi tout simplement parce qu'il y a la volonté, et ça a été le cas de la part du Premier ministre, d'être le plus réactif possible par rapport à la situation sanitaire. Là, le constat est tellement positif sur la situation sanitaire qu'elle permet cette mesure générale. Et donc, c'est quand même, ne le perdons pas de vue, une très bonne nouvelle pour nos élèves. Donc je conçois que ça apparaisse comme assez soudain pour certains, et j'en suis désolé, mais néanmoins, nous officialisons aujourd'hui cela, et je le fais par ma voix, il y aura tous les écrits nécessaires ensuite, mais c'est une parole très officielle du Premier ministre dès hier, et prenons-le quand même d'abord comme une très bonne nouvelle, et sur ce qu'elle est en elle-même et sur ce qu'elle signifie de l'amélioration de la situation.
Eh bien, merci, monsieur merci le ministre de l'Éducation, merci Jean-Michel Blanquer, de Nouvelles Fables de La Fontaine, hein, son livre pour les vacances distribué.
Hein, absolument, et c'est d'ailleurs très en osmose avec le plan lecture. Je n'ai pas eu le temps de vous dire tout ce que signifie la lecture Grande Cause Nationale, mais comme chaque année depuis 4 ans, nous distribuons à tous les CM2 de France les Fables de La Fontaine, c'est les 400 ans de La Fontaine. Chaque année, un illustrateur différent, et là c'est Rebecca d'Outremer qui a fait des dessins magnifiques.
Merci.